France Culture.
Et vous écoutez France Culture. Par mois on va dans la cité dolente, par mois on va vers l'éternelle souffrance, par mois chez les âmes errantes. Dante, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui aura ce soir le vif plaisir et l'émotion d'accueillir Christophe Gans, cinéaste, scénariste, journaliste et mémoire universelle de la cinéphilie de genre. Il signe le troisième volet du cycle de Silent Hill, Retour à Silent Hill, une romance cauchemardesque, visible en salle à partir du 4 février. Chronique en second temps d'émission, signée Esther Teilhard. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Bonsoir Christophe Gans.
Bonsoir.
C'est un mot que j'aurais souhaité prononcer plus souvent, vous n'êtes pas assez souvent venu à Mauvais Genre, il faut revenir.
C'est bien triste, mais on va réparer cette injustice.
Voilà, très bien. Bon, en tout cas, merci d'être là ce soir et puis évidemment, bienvenue dans cette émission où vous êtes totalement chez vous, bien évidemment. Vous serez en compagnie d'Esther Teilhard, bonsoir.
Bonsoir François.
Esther Teilhard qui nous parlera non de Silent Hill, mais d'une autre montagne, les montagnes de la Mittel Europa avec Schnitzler. On vous en dira plus.
La Traum Novelle qui a inspiré Eyes Wide Shut et qui est absolument magnifique et énigmatique et sulfureuse à souhait.
Voilà, tout à fait ce qu'il nous faut. Bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Quoi de neuf Philippe Rouillet?
On est au Festival de Gérardmer là,
oui,
qui se profile.
Pendant que l'émission s'enregistre, on est au Festival de Gérardmer, tout à fait. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Alors on peut signaler
quand même... tout ce que vous voulez.
Je signale tout ce que je veux et j'ai choisi de signaler 35 ans de manga en France, le formidable donc numéro spécial 35 de Atom.
Oui.
Qui est un numéro à la fois historique, patrimonial, qui fait le point sur 35 années de production.
C'est ça, qui fait suite à un précédent numéro qui s'appelait 30 ans de manga, et fort logiquement, 5 ans après, eh bien c'est 35 ans de manga.
Bonsoir Stéphane Duménildo.
Bonsoir.
Quoi de neuf de votre côté?
J'ai sous les yeux le numéro de Mad Movies.
J'allais en parler.
Consacré donc à Silent Hill, et avec un article que j'ai signé sur, devinez qui, Udo Kier, où j'ai l'impression de parler d'Udo Kier à chaque
Oui, vous numéro. Êtes un peu le Udo Kier Connection.
Ouais. Comme le livre.
Il faudrait une biographie, il faudrait une monographie. Un jour sur Udo Kier, en tout cas, soyez le bienvenu. On va parler, peut-être pas directement d'Udo Kier, mais en tout cas, donc de Silent Hill. Et j'ai demandé à Laurent Polleret de nous donner sa vision de Silent Hill, de la nuit et de la nuit macabre. On reçoit ce soir Christophe Gans à l'occasion donc de ce troisième volet du cycle de Silent Hill. Présentation de Christophe Gans, Fausto Fazulo, vous êtes l'homme de tous les paris. Vous qui avez confié une sorte de rédaction en chef dans le dernier Mad Movies.
Absolument.
400e du nom.
Cette mission-là, elle est assez représentative de ce qu'est Christophe Gans, je pense. Cette mission de rédaction en chef, non pas parce qu'effectivement, il a un passé passif de journaliste cinéma, mais parce que c'est quelqu'un, en fait, en tout cas si je devais donner une définition qui est très personnelle, a toujours su vivre avec son temps et a su anticiper des tendances et en a fait de ses films justement une caisse de résonance de l'époque. Crying Freeman, par exemple, était une adaptation de manga avant même que le phénomène manga devienne ce fameux phénomène international, mondial et surpuissant qu'il est aujourd'hui. Quand il fait Silent Hill en 2006, alors je saute un peu les étapes, il y a évidemment le Pacte des Loups, mais je ne vais pas non plus faire une filmographie détaillée, mais quand il fait Silent Hill en 2006, le jeu vidéo, effectivement, est à la mode, mais le jeu vidéo d'horreur n'a pas encore cette espèce d'aura internationale qu'il a aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a toujours senti son époque et qui a toujours su réfléchir à ce que les spectateurs attendaient, tout en ayant aussi avec lui et derrière lui et ben un véritable bagage cinéphile. Ce qui fait qu'il y a un véritable dialogue entre le public et la propre cinéphilie de Christophe Gans. Il y a quelque chose de très très organique entre cette passion, son fétichisme et ce qu'il livre ensuite concrètement aux spectateurs et spectatrices.
Christophe Gans, cinéphile organique, oui, jusqu'au fétichisme.
Oui, au fétichisme, je le suis, hein, je veux dire, absolument. Non, c'est vrai. J'ai toujours essayé de chercher à travers les autres médias, même ceux qui étaient bourgeonnants, ce qui pouvait à un moment ou à un autre renouveler en fait le cinéma, qui est une vieille dame, qui donc a besoin un peu qu'on lui inocule quelque chose de neuf, juste pour la renouveler, pour lui redonner un peu de sa fraîcheur. Et le cinéma, pour moi, est l'art incontesté du XXe siècle. Et s'il veut passer à travers le XXIe, il a intérêt à l'hybridation.
Vous n'avez jamais été tenté par, je ne sais pas moi, le dessin, la littérature? Parce que quand on vous écoute, vous avez un discours extrêmement clair, cadré. Vous n'avez jamais été tenté par de carrière d'essayiste, de romancier, de scénariste? Vous l'êtes.
Je le suis. En fait, je pense que si je n'avais pas réussi à être cinéaste, je serais devenu historien du cinéma. Ça, je crois que c'est assez clair. Hein. Voilà, j'ai une passion pour les films de tout âge, de tout temps, faits par des cinéastes même les plus inconnus, etc. Et en fait, quand je ne travaille pas sur mes films, je passe mon temps à essayer de découvrir des choses. Voilà. Et puis à défendre aussi des cinématographies, comme la cinématographie indienne en ce moment, que je défends. Rajamouli, que je défends bec et ongle.
Évoqué, mais vous avez raison.
Mais c'est pour ça que vous êtes historien du cinéma. Vous êtes cinéaste et historien du cinéma, Christophe. Mm-hmm. Je veux dire, on peut penser à Bertrand Tavernier. Il y a un peu cette idée-là qui était conjointement aller explorer des territoires de cinéma des autres. Alors lui, son territoire, c'était pas du tout le cinéma indien, c'était plus le cinéma français des années 30, assez méconnu, en dehors de Renoir, du Vivier et de quelques autres. Et puis des films qui s'ouvrent à autre chose, c'est-à-dire pas des films de cinéphiles, des films qui s'ouvrent à autre chose que de la redite du cinéma. Quand il a fait son premier film, qui était L'Horloger de Saint-Paul, Philippe Noiret était un peu inquiet en disant, oh là, le gars, il connaît tout le cinéma, à chaque fois qu'on va commencer un plan, il va dire qu'est-ce qu'aurait fait John Ford, qu'est-ce qu'aurait fait Lubitsch, et il a été étonné que non, que Tavernier allait dans d'autres directions. Et moi, quand je vois vos films, Christophe, je me dis pas, tiens, ça c'est du Bava, ça c'est du Argento, ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est autre chose. Et justement, vous passez par le manga, par le jeu vidéo, par d'autres expressions, par le conte aussi. Il faut pas oublier cette expression de la Belle et la Bête. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Mais c'est pas une référence des films dans vos films.
Christophe. Oui, et puis il y a la culture rock aussi, que je revendique. J'ai quand même fait partie de l'équipe de Rapido, des Enfants du Rock. Et ça fait partie aussi de mon ADN, quoi. Donc, je suis né en 1960 et évidemment, je veux dire, les années 70, le rock, c'était quelque chose d'extraordinairement stimulant pour un ado, quoi. Et donc, tout ça, je le porte et c'est quelque chose que j'ai en moi. Le héros de Retour à Silent Hill, les gens se disaient, mais il est pas exactement comme dans le jeu. Et puis je disais, mais non, j'ai voulu qu'il ait la tête de Jim Morrison. Parce que Jim Morrison, c'était le chanteur des Doors, les portes de la perception devaient s'ouvrir. Et brusquement, les gens disaient, c'est vrai. S'il y avait un Orphée moderne, ça serait Jim. Ça serait Jim Morrison. Et à ce moment-là, tout le monde comprend, quoi. Parce qu'il y a cette culture rock aussi. Bon, je la revendique vraiment, quoi.
Jim Morrison, dont on peut saluer les mannes au cimetière du Père Lachaise. Stéphane Duménildo, votre Christophe Gans.
Ah bah oui, moi je suis un enfant de Starfix, c'est évident. J'irais même de la Star.
Alors Starfix, précision, Starfix, c'est donc la revue historique fondée par Christophe Gans.
Ah bah oui, je me souviens très bien, moi j'allais avec mon école voir Danton de Vajeda et devant le kiosque, je savais que ce magazine allait sortir, donc, et j'ai acheté sur le chemin. Donc,
Au lieu de regarder Vajeda, vous lisiez Starfix.
Pas tout à fait, mais j'ai acheté le premier numéro avec Dan Cristal en couverture. Donc,
janvier 82. Bah, sorti de Danton, voilà, de Vajeda. Ça, ouais.
Et donc, après, évidemment, je les ai tous achetés, mais ça a été vraiment très important pour ma génération d'avoir cette revue entre les mains. Déjà parce que bon, on n'avait pas, évidemment, il n'y avait pas Internet, donc on achetait une ou deux revues de cinéma, on achetait un magazine de rock, Rock and Folk, Folk ou Best, on achetait Metal, mais on le lisait pendant un mois entier. Hein, on achetait le Starfix, on le relisait en entier tout le temps, quoi. Et bien sûr, oui, pour l'ouverture d'esprit que ça a pu m'apporter, moi et à ma génération, c'était vraiment indispensable. Hein. On pouvait naviguer comme ça dans un numéro entre, évidemment, cet article mythique sur Zombie, par exemple, hein, qui a été un choc, mais un choc graphique aussi pour nous. Mmh. Et puis, bon, il y avait ce qu'a porté François Cognard, et puis Boukrieff avec les films de l'Est hein, aussi, et les films de Verhoeven, enfin voilà, donc c'était... Il y avait une sorte d'underground, en fait, qu'on aimait aussi. On achetait Starfix, on savait qu'on était... On achetait pas... C'était pas l'écran, c'était pas les cahiers, c'était autre chose qui nous appartenait.
Mmh. En fait, la revue qu'on a copiée, parce que c'est le cas, la revue dont on s'est inspiré, en tout cas, pour faire Starfix, en fait, c'était Rolling Stone. Et le gonzo journalisme, c'était quelque chose qui nous parlait énormément. Et on aimait ce ton, en fait, très libre, très décontracté, où en quelque sorte, on tutoyait les gens qu'on admirait et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a essayé d'introduire très vite. Et en fait, ça a créé une grande proximité entre le lectorat et nous, et à travers nous, certainement, les auteurs qui se sont mis à aimer, Paul Verhoeven, David Cronenberg, Dario, évidemment, Argento, et tout ça. Je pense que ça, donc, le truc qu'on visait, nous, c'était ça. Il y avait ça, donc, Rolling Stone, et il y avait les pages culture de Métal Hurlant, qui étaient exceptionnelles à l'époque, qui étaient écrites, par Dionne.
Jacques Guamard, François Rivière.
Et j'adorais ces pages-là. Évidemment, il y avait les BD, il y avait tout ce qu'il y avait dans Métal Hurlant, qui était extraordinaire, ça reste une revue extraordinaire. Mais il y avait aussi les pages culture, et la façon dont il parlait de littérature, par exemple, Dionne, c'était sans sas.
Alors justement, littérature, Christophe Gans, on parle de votre cinéphilie, vous en parlez également abondamment, mais les auteurs qui ont marqué Christophe Gans, les romanciers, les poètes...
Le premier livre qui m'a frappé, c'est Les Condés de Garpeau.
Oui.
Histoire extraordinaire. D'ailleurs, je pense que Silent Hill, il doit énormément. C'est-à-dire le romantisme noir. Hein. Et c'est à l'époque, en plus, ça ressortait chez Marabout, la fameuse collection fantastique de Marabout.
Et livre sain.
Et évidemment, donc, je commence en lisant Edgar Poe, et après, j'arrive très naturellement sur l'auteur qui reste mon auteur favori. En fait, c'est ça, c'est assez troublant parce que ce mec que j'ai découvert quand j'avais 12 ans reste mon écrivain favori, c'est Jean Rey.
C'est pas vrai.
Ouais.
Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour... Alors, là, je fais une autre émission.
D'un coup, on ouvre une porte.
Je dois tout à Jean Rey.
Voilà François Angelier qui sort du placard.
Donc, on va arrêter la discussion qu'on reprendra peut-être un jour. Mais c'est vrai que faites du Jean Rey. Faites Harry Dixon.
Mais je rêve de faire Les Contes du Whisky.
Voilà. Alors, je m'adresse au producteur du monde entier.
Mais j'en ai un que j'ai contacté à la suite de la soirée avec le film de Kate et Annie, j'ai rencontré donc un producteur belge. Je suis allé le voir, voilà, qui s'appelle Pierre, et je lui ai dit, écoute Pierre, t'es belge, je suis un fan de Jean Rey, tu pourrais pas essayer de monter une belle adaptation des Contes du Whisky de Jean Rey, je te le fais, je me mets en participation, je te le fais, etc. Et on est toujours en contact, donc sait-on jamais.
Alors là, nous parlons donc ce soir avec comme horizon métaphysique Les Contes du Whisky par Christophe Gans. Mais si vous le voulez bien, nous allons faire retour à Silent Hill, donc Silent Hill 2, qui est le sujet ce soir de notre débat avec son auteur.
James, tellement de temps est passé. Il est arrivé quelque chose. Je te supplie de revenir. Reviens chez nous. Je t'aime, Mary.
Y'a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ?
T'es pas d'ici, n'est-ce pas ?
Non, moi je suis à la recherche de quelqu'un.
Tout le monde est malade à Silent Hill. Tu n'en as jamais entendu parler ?
Sacré retrouve avant qu'il soit trop tard.
Fichu le camp!
Alors, Silent Hill 2, 20 ans après l'autre Silent Hill de Christophe Gans, Philippe Rouillet. Donc au départ, quand même, important de cadrer, de bien cadrer, c'est un jeu vidéo, c'est un des volets d'un jeu vidéo mondialement célèbre.
Voilà, c'est un paradoxe que ce soit moi qui parle de jeux vidéo, puisque j'en suis pas spécialiste, mais je me suis un petit peu documenté autour de cette sortie. J'ai été voir, notamment sur Internet, ce jeu vidéo, puisque je dois confesser que j'y ai jamais joué. Et c'est vrai que le Silent Hill 2, qui est adapté ici, est une expérience différente du premier. D'ailleurs, Christophe nous le dira tout à l'heure, mais c'est vraiment ce volet-là du jeu vidéo qui l'intéressait depuis le début, et il a été plus sage en commençant par un Silent Hill normal qui posait l'univers, qui posait l'idée de cette ville labyrinthe qui change, où on se perd, où il y a plusieurs dimensions, voilà. Et après cette étape 1 du film Silent Hill, ce retour au Silent Hill est quelque chose de plus personnel. Parce que, et c'est moi ce qui me plaît tout de suite dans ce film, c'est que on est dans les pas du protagoniste. Donc, qui est ce sosie de Jim Morrison, mais qui ressemble. Parce qu'en fait, c'est une adaptation d'Orphée. Au début du film, le protagoniste reçoit une lettre de sa femme qui lui demande de venir la chercher. Sauf que le problème, c'est qu'elle est morte. Donc, voilà, quand vous recevez la lettre de votre femme morte qui vous demande de venir vous chercher dans un lieu un peu maléfique, ça rappelle un petit peu. Orphée, voilà, et c'est très intéressant de penser que le précédent film de Christophe Gans n'était pas Silent Hill, mais entre les deux, il a fait La Belle et la Bête.
Hein. Là, justement.
Et donc, La Belle et la Bête, Orphée, je veux dire, il y a une filiation Cocteau, ouais. Même si, évidemment, et c'est là ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de filmer comme Cocteau, c'est pas du tout ça. C'est tout autre chose. Cocteau a fait des films, donc il reste où ils sont, ces films, et on les aime. Mais c'est très intéressant de revisiter ces thématiques-là. Et pour moi, c'est très symbolique de faire Orphée après La Belle et la Bête.
C'est totalement conscient. Absolument conscient. Je trouvais même ça excitant. Je disais, j'ai fait La Belle et la Bête non pas pour faire un remake du film de Cocteau, qui à mon avis est incopiable, mais pour converser avec Cocteau. Parce que à l'origine de ma passion pour le cinéma, il y a le fait que mes parents me laissent regarder très très jeune La Belle et la Bête et Orphée, qui passaient régulièrement donc sur les deux chaînes de télé qu'on avait à l'époque.
À la télé.
Voilà. Et évidemment, pour un gosse, regarder La Belle et la Bête et regarder Orphée, c'est un truc absolument incroyable. Et notamment les effets spéciaux. C'est-à-dire la façon dont il utilisait le ralenti, dont il utilisait en fait la pellicule, le défilement de pellicule à l'envers, et ainsi de suite. Et le premier livre que j'ai lu, enfant, sur le cinéma, c'est écrit sur le cinématographe de Jean Cocteau, où il explique les fameux effets spéciaux. Et le livre suivant que je lis, c'est La conversation Truffaut-Hitchcock. Et donc voilà, c'était bon. Là, c'était brusquement ces deux livres qui restent mes livres favoris sur le cinéma me déterminent vraiment. Je veux dire, c'est là, à partir de ces livres-là, que j'ai commencé à imaginer que je pourrais devenir un jour cinéaste. Donc mon affiliation à Cocteau, elle est constante. Et puis aussi, Cocteau, il représente quelque chose que j'aime énormément, qui est une forme de dandisme dans la culture française. C'est-à-dire que pour moi, Cocteau, il est quand je voyage beaucoup et quand je vais à l'étranger, il y a deux artistes qui me sont très chers et dont tout le monde me parle encore aujourd'hui, et spécialement au Japon, quand je faisais la promotion de La Belle et la Bête, c'est Cocteau et Gainsbourg. Et il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose et j'aime ça. J'aime penser que la culture française, elle n'est pas figée, mais elle est à travers ces deux provocateurs, parce que c'était deux provocateurs, chacun à leur façon, évidemment, et dont l'œuvre continue à irriguer comme ça, et dont on nous parle quand on voyage à l'étranger, et notamment dans le sud-est asiatique. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc pour moi, revendiquer l'affiliation à Cocteau au surréalisme. C'est-à-dire, c'est parce que évidemment le fantastique de Cocteau, c'est le surréalisme.
Et avec l'idée dans ce film de faire aussi un maximum de trucage sur le plateau.
Tout à fait.
Comme
tout
Cocteau.
Ça, c'est, exactement. Oui, par exemple, toutes les créatures sont interprétées par des danseurs, plutôt des danseuses, parce que c'est vraiment très féminisé tout ça, par des danseuses, des contorsionnistes, des acrobates. Oui, parce que je pense que si j'avais essayé de les faire pour repousser les effets spéciaux en post-production et de les faire en animation CG, en fait, ça aurait cassé l'idée que on est dans une hallucination. Et quand on est dans une hallucination, on croit à ce qu'on voit. Et je pense que même si elles avaient été parfaitement réalisées en CG, etc., le CG a quelque chose qui fait que c'est une illusion.
Il manque l'organique, pour voilà. vous dire sur ce que disait Fausto tout à l'heure.
Et donc, je les ai fait, oui, je les ai fait sur le plateau. Et puis, c'est là où le sens du cinéma devient incroyable. Quand vous arrivez le matin et que vous avez un chorus line de 50 infirmières, je veux dire, et que vous répétez le ballet, parce que c'est comme un ballet, je veux dire, avec elles qui déboulent dans un couloir et tout ça, c'est extraordinaire.
Le CG, c'est quoi, François
Fazulo? Ce sont les images générées par ordinateur. Voilà. Mais pour rebondir justement là-dessus, c'était aussi la première fois que vous utilisiez des virtual sets, c'est-à-dire des images haute définition projetées en très grand format derrière les comédiens. Comment ça s'est passé, l'utilisation de cette
technologie? Au départ, j'étais inquiet. J'étais inquiet parce que j'avais un des décors qui me tenait le plus à cœur, qui était un décor à la Orson Welles, qui est un atelier de peinture entièrement transparent, qui est filmé pendant une nuit d'orage. Donc on voit la ville de l'autre côté des vitres, des murs en vitres, et il y a la pluie qui tombe, donc qui projette des éclairages étranges, des larmes en fait, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'atelier de peinture, puisque le héros est peintre. Et le décor coûtait très cher. On a commencé à le construire et puis la production me tannait en fait pour que j'essaye de le faire autrement. Et j'ai décidé de tenter de le faire avec en virtual set, ce qu'on appelle le volume, qui est donc en fait un petit cube. Hein, c'est pas très grand dans lequel vous êtes et en fait tout le décor est projeté en haute définition et en fait cette haute définition réagit au mouvement de caméra. C'est-à-dire les parallaxes changent en fonction de la caméra. Et donc on a décidé de faire ça comme ça. Et vous avez vu le film, je pense que c'est impossible de savoir que ce décor n'existe pas. Et en fait, sur le plateau, il y avait juste le fauteuil de l'acteur, le plancher, un chevalet sur lequel il y a le portrait de sa femme, et il y a l'encadreur de la porte contre lequel il vient s'adosser à un moment donné pour lire la lettre. C'est tout ce qu'il y avait.
Et sur le tournage, c'est très différent d'un écran vert.
En fait, il n'y a pas d'effets spéciaux, puisque en fait, ce que vous filmez, c'est ce que vous avez. Il n'y a aucun travail en post-production. C'est directement...
Ce qui veut dire que pour le jeu des acteurs, ils interagissent vraiment avec le décor.
Ah, ils voient le décor. Ils voient le décor autour d'eux, au-dessus d'eux, etc.
Stéphane ?
Et vous parliez aussi de la féminisation de l'univers de Silent Hill. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'horreur passait au féminin. Oui. En ce moment, et je le vois avec l'école où j'enseigne, en fait, hein. Toutes les filles font des peintures de monstres, elles vénèrent toutes Junji Ito, et donc dans Silent Hill, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment, et dans vos autres films d'ailleurs aussi.
Oui, j'ai un style doux. Voilà, je le sais dès le départ. C'est-à-dire que j'ai pas un style hargneux, agressif, etc. J'ai un style doux parce qu'en fait je suis un cinéphile et les films que j'ai découverts, c'est les grands films hollywoodiens des années 50. Ma mère me laissait regarder Alfred Hitchcock et Douglas Sirk, quoi. Donc j'ai ce style-là et donc je sais que en fait il vaut mieux que j'aille plutôt dans le féminin plutôt que dans le masculin parce que j'arriverai jamais à trouver en moi justement l'énergie masculine qu'on attend en fait d'un film d'action très brutal, etc. J'essaye toujours de... Un jour, il y a une femme qui était venue me voir à la sortie une spectatrice est venue me voir à la sortie de Crying Freeman et elle m'a dit j'ai adoré votre film. Je lui dis bon, il est quand même un peu violent mon film. Elle me dit non, il y a de très beaux arbres. Et je me rappelle avoir réfléchi à ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Et en fait j'ai compris quand les gens ne veulent pas voir la violence. En fait, dans mes films, ils peuvent regarder le décor, ils peuvent regarder les arbres, ils peuvent regarder les intérieurs des maisons, etc. Il y a toujours ce côté, ce glam, en fait, quelque part. Et finalement, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'offre toujours au spectateur, quel qu'il soit, une échappatoire esthétique pour que si le sujet ne lui plaît pas ou si telle scène ne lui convient pas, il peut s'échapper vers quelque chose qui est finalement plus doux.
Dans Silent Hill, il y a cette espèce de vision panoramique très large d'une sorte de ville au bord d'un lac très suisse, comme ça, une sorte de cité avec une montagne à l'arrière-plan. Tout ça est très frais, très printanier, très aérien, très aéré. Et puis après, il y a l'envers du décor, si j'ose dire, qui est un univers putride, maudit, avec cette pluie de cendres.
À la Jean Ray.
À la Jean Ray, absolument, une espèce de ville à la Malpertuis. Et donc, c'est vrai que une des forces du film, c'est de jouer sur cette espèce de balancement et de retournement permanent entre une fraîcheur comme ça, mais même l'idylle entre adolescents, et puis après, l'univers, je disais du Dante au début, l'univers de l'inferno complet. Donc, il y a ces deux pôles.
si vous voulez faire sentir à un moment donné la claustrophobie, vous avez intérêt de commencer le film par des scènes agoraphobiques. Donc, je veux dire, moi, j'ouvre le film sur le type dans sa voiture qui traverse les Rocheuses. Le film est censé se passer dans une petite ville perdue dans les Rocheuses. Et donc, j'ai filmé ça à la frontière autrichienne. Et bon, il y a ce panorama absolument extraordinaire de montagnes, etc. Ça peut surprendre les fans parce que les fans savent que le jeu s'ouvre déjà dans la brume, déjà sous un ciel bas. C'est lugubre instantanément. Mais là, je voulais justement créer une espèce de surprise, c'est-à-dire dire on va ouvrir très large, on va respirer pour ensuite arrêter de respirer.
Mais c'est d'ailleurs très intéressant parce que la clôture du film se fait aussi sur cette même route et y a l'idée de cycle. C'est-à-dire que comme si c'était rajouté parce que l'histoire se déplace autrement et c'est comme si cette ouverture, cette clôture faisait partie du cauchemar qui va constamment se réinventer.
Alors, au départ, mon film finissait comme le jeu. Il finissait donc, sans dévoiler, près d'un lac. Bon,
voilà.
Voilà. Et les propres producteurs japonais du jeu sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez finir le film sur quelque chose de moins lugubre ?» Sur le coup, j'étais choqué. Je me suis dit « C'est quand même les mecs qui viennent me demander, les producteurs du jeu, qui viennent me demander de trahir leur œuvre. » Et puis après, je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je pense comme ça. Il faut que je me dise, est-ce qu'on ne peut pas rajouter une couche pour asseoir justement ce qui est le mood du film, et le mood est romantique, et de me dire, ça serait formidable si les gens venaient à penser que finalement, ce type, s'il veut vraiment retrouver sa femme, il doit assumer sa propre démence. Et je me suis dit, on va faire ça. On va jouer quelque chose. Alors, sans expliquer ce qu'est exactement l'épilogue, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu suggérer en rajoutant une scène, effectivement, de retour sur cette route ensoleillée. Christophe Gans, ce soir l'invité de Mauvais Genre à propos donc de retour à Silent Hill. Fausto.
J'avais une question en fait sur la mise en scène dans votre précédent Silent Hill en 2006, qui était un film bien plus opératique avec de grands mouvements d'appareils, des mouvements de grue. Là, dans le retour à Silent Hill, ce qui m'a marqué, c'est l'utilisation des drones en fait. Qui confère en fait à l'image et à la mise en scène une sensation assez différente de celle provoquée par une grue, une sensation de flottement, de réalité un peu déréglée. C'était ça que vous cherchiez justement à obtenir avec les drones ?
Avant toute chose, je voulais pas me répéter. J'avais très peur de ça. J'avais peur en fait, 20 ans après, de refaire un film que j'avais déjà fait. Ce qui aurait forcément déçu, je pense, les fans, de toute façon. Donc, j'ai essayé de faire un film qui tienne compte de la technologie. Et les drones, ça fait partie d'une nouvelle technologie, comme le volume, justement, le Virtual Set dont on parlait. Mais j'ai essayé, par exemple, de me dire, bon, le premier était entièrement fait sur rail, c'est-à-dire c'était de la dolly et de la grue à tout bout de champ. Là, j'ai fait tout le film en caméra portée. Et effectivement, les plans que j'aurais pu faire à la grue, j'ai plutôt préféré les faire au drone. Parce qu'il donne quelque chose d'assez étrange, effectivement, une sorte de vision qui se, effectivement, avec des parallaxes étranges.
Une fausse stabilité.
Etc., qui, à mon avis, est très intéressante. Tous les plans dans la forêt où il marche au début, j'aurais pu les faire à la grue, j'ai en fait tout fait au drone. Et j'aime bien l'idée d'une ambiguïté, c'est-à-dire que j'aime pas les drones quand on sait que c'est un drone.
Maintenant, bien tout le monde fait des drones. Et qui sont ultra utilisés.
Voilà, ça devient emmerdant, etc. Par contre, se dire tiens, au lieu de ce plan de grue, je vais pas le faire avec une grue, je vais le faire avec un drone, ça devient intéressant. Parce que effectivement, l'idée c'est pas de faire exactement un plan de grue, mais c'est de faire une espèce de chose un peu étrange, un peu décalée. Mm-hmm.
je pense que le public le sent au fur et à mesure. Il sent qu'il y a quelque chose qui se dérègle. Et comme je voulais à la fois un film plus intime et plus organique, comme vous disiez.
Un film plus mental. Parce qu'en fait, c'est une enquête. Il va à la recherche de sa femme. Mais c'est aussi un parcours mental.
Ben, le film commence par un plan où le héros se regarde dans un miroir. Bon, déjà, le jeu commence par un plan où le héros se regarde dans un miroir. Et c'est un plan qui a été très longtemps étudié, justement, par les fans de jeux vidéo. Mais moi, il y a un plan avant qui se passe dans un bar où le héros ramasse son téléphone, il se regarde dans un grand miroir, il est assailli et on voit par ses yeux. Et donc, il y a tout un système qui nous permet, et c'est le genre de plan qu'on voit dans les cinématiques de jeux vidéo.
Complètement, ouais.
Voilà, mais qu'on ne voit pas généralement au cinéma.
Un basculement subjectif, quoi.
Voilà. Et c'est pour suggérer très, très vite, dès le départ, que tout ce qu'on va voir, c'est filtré par le point de vue du personnage. Et le personnage, il a une bonne tête. C'est vraiment le bon gamin, quoi. Il a une bonne bouille et tout. Et au fur et à mesure que le film avance, on comprend qu'en fait, malgré sa bonne bouille, ce mec n'est pas tout à fait sain. Et c'est à ce moment-là que ça me permet d'opérer ce dérèglement de la réalité à travers le point de vue. Mais en fait, on ne quitte jamais le point de vue du personnage central. D'ailleurs, il est dans toutes les scènes. Il n'est plus de moi.
On peut penser d'ailleurs que tous les gens qui l'affrontent sont des doubles.
Bien sûr.
Des projections.
Bien sûr, c'est des projections ou de sa femme ou de lui-même. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, rien de ce qu'il vit ne lui arrive vraiment. Mais dire ça, ce n'est pas spoiler le film. Parce que, en fait, quand on finit par comprendre ça, se pose une question cruciale qui est « Mais alors, où est-elle »
Stéphane ?
Oui, il y a quelque chose. Donc, ce qui nous intéressait beaucoup quand on jouait à Silent Hill, enfin, moi, par exemple, c'était de me battre avec les poupées de belle-mère.
Au hasard.
Oui. Et donc, il y avait ce côté art contemporain qu'on avait rarement vu, en plus, dans un jeu vidéo. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, évidemment, dans votre film, puisqu'il y a le côté, en effet, bon, spectacle vivant, on l'a vu avec les infirmières, mais on se promène aussi chez Louise Bourgeois, chez
chez Giacometti, chez Bacon.
Un peu. Les mannequins de Chirico, le premier monstre qu'il voit, c'est une sorte de personnage qui semble totalement replié, tout en hauteur, qui fait un peu penser au mannequin de Chirico. Donc l'influence surréaliste, elle est en permanence.
Et elle était déjà dans le jeu, je tiens à préciser. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et d'ailleurs, une des choses que je trouve formidable dans leur jeu, c'est le fait d'avoir utilisé effectivement l'art contemporain pour créer les créatures. Mais à partir du moment où les créatures, elles sont symboliques et elles expriment en fait un souvenir ou une émotion lié profondément au personnage, eh ben en fait c'est normal qu'elle soit comme ça. C'est normal qu'elle ait cet aspect plus surréaliste finalement qu'effrayant. Mais le surréalisme est effrayant. C'est ça qui est bien.
Le bon surréalisme est effrayant. Stéphane.
Oui, et vous avez été vous-même joueur de Silent Hill. Et est-ce qu'il y a une part en fait d'autobiographie d'un joueur dans votre film pour retrouver les sensations?
Oui, oui, forcément. Il y a justement, on parlait de cet épilogue. Dans cet épilogue, j'ai essayé aussi de mettre l'idée que quand on finit un jeu, moi par exemple, quand je finis un jeu qui me plaît, je le recommence tout de suite. Je le recommence généralement avec un niveau de difficulté supérieur, mais j'ai envie d'y rejouer. Et effectivement, cela affecte mes choix. C'est-à-dire, je vais rejouer, mais je sais cette fois-ci ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire en fonction des dangers que j'ai rencontrés dans le jeu la première fois. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est constamment exposé dans le film.
Il y a un peu la différence entre le pèlerin et l'aventurier. Quand on est un cinéphile qui revoit des dizaines, des centaines de fois, comme vous l'êtes, j'imagine, pour certains films, je sais pas, combien de fois avez-vous vu Le Signe du Démon, le Masque du Démon, pardon, ou Inferno. Bon, c'est la logique du pèlerin. Quand on revoit un film, on sait ce qui va arriver, donc il y a des étapes qu'on connaît, il y a des lieux qu'on connaît, il y a un but qu'on connaît, donc on est une sorte de pèlerinage de l'imaginaire. Par contre, avec un jeu vidéo, c'est plus l'aventurier, puisqu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer.
D'abord, il peut se passer des choses. C'est l'aventure, et après, c'est le chemin de croix.
Voilà.
Je crois que c'est ça, en fait. Après, on sait, par exemple, qu'on va affronter tel boss, et que la première fois, ça a été rude pour le maître KO, et si, en plus, vous y rejouez avec un mode de difficulté supérieur, et ben, vous allez encore plus trimer. Ça, c'est quelque chose qui... Mais les gens adorent ça. Ils adorent, justement, le côté chemin de croix. Il y a une forme d'autopunition, dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, c'est là aussi, ça fait partie des thèmes du film. Le héros s'auto-punit, en fait.
Mais il y a quand même un truc à régler, Philippe. C'est-à-dire que là, on est dans un film et pas dans un jeu vidéo, et donc il n'y a pas des combats avec des boss pour passer d'un niveau à l'autre. Comment on gère ça d'un point de vue scénaristique ?
En fait, pour adapter le film, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, je me suis dit, et, parce qu'évidemment, le film, l'expérience du jeu, c'est 12 à 15 heures. Pour finir le jeu. Et moi, je me suis dit, bon, je vais écrire le scénario comme si c'était un pitch du jeu que je racontais à quelqu'un qui n'y avait pas joué. Donc, très naturellement, je saute au-dessus de certaines péripéties, j'en abrège d'autres, etc., etc., et je fais ressurgir des choses qui ne sont pas dans le jeu ou qui sont, en tout cas, à l'état latent. Par exemple, qui est le personnage central dans le jeu, c'est une coquille vide que vous habitez, et donc vous y apportez vos émotions, votre affect, etc., etc. Mais c'est pas possible au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut le définir. Dans le jeu, il n'a pas de métier, par exemple. Moi, je l'en ai fait un peintre. Et donc, c'est un type qui ne cesse de peindre sa femme, évidemment. Et une partie de son univers mental, c'est une espèce de labyrinthe qui contient des centaines de portraits de sa femme. Et je crois que c'est là où finalement le jeu, l'expérience du jeu et l'expérience du cinéma peuvent s'apporter mutuellement. Et d'autre part, je refuse de penser que l'expérience du jeu vidéo se limite uniquement à une forme de masturbation à 3h du matin avec un casque sur la tête, voilà, à jouer au fond de son divan. Le jeu vidéo, une fois quand vous aimez un jeu, la première chose que vous faites, c'est d'appeler vos amis, c'est d'aller sur les forums, c'est de discuter avec d'autres fans, etc., etc. Ça vous ouvre en fait, ça vous referme pas. Et Silent Hill fait partie des jeux qui ont été les plus débattus par les fans. Parce que c'est un jeu très, très cryptique. Et donc, on est constamment en train d'opposer à d'autres interprétations, sa propre interprétation et tout. Donc, pour moi, le film, ce que j'espère, c'est que les fans le recevront comme ma proposition à une interprétation de Silent Hill. Mais évidemment, elle n'est pas l'interprétation officielle. Elle n'est qu'une parmi tant d'autres.
Non, en fait, ça me renvoie un petit peu à ce qu'on disait en ouverture d'émission avec Philippe. C'est en fait la dimension très syncrétique en fait de votre travail. C'est vrai que je connais aucun autre metteur en scène français, par exemple, qui parle du jeu vidéo et qui le considère comme une véritable forme d'art à part entière. Il y a toujours eu une sorte de défiance,
de condescendance même.
De condescendance, oui, vis-à-vis justement de ces arts populaires. Et c'est pareil concernant votre position vis-à-vis du manga ou du cinéma d'animation japonais, en fait. C'est-à-dire que tout ça a été longtemps considéré comme des sous-cultures, voire des sottes-cultures. Et ça l'est encore un peu, même aujourd'hui, par une certaine intelligentsia. Et vous êtes un petit peu le seul à faire sauter les digues. Est-ce que, j'imagine que vous le faites absolument naturellement, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine forme de revendication et d'affirmation d'une identité quand vous tenez ce type de discours-là et surtout quand vous le traduisez à l'écran dans vos films ?
Ah, forcément. Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma, c'était un carrefour. C'est un carrefour entre la littérature, l'architecture, je veux dire les arts plastiques, la photographie, etc. Le cinéma, en fait, en soi, c'est une accumulation d'autres arts. Et en fait, si je dis bien, si le cinéma doit perdurer au XXIe siècle, il doit continuer à être ce carrefour qui invite les autres formes d'expression. Et les formes d'expression d'aujourd'hui, eh ben, elles ont changé. Elles sont plus numériques, elles sont plus virtuelles, etc. Et je vois pas pourquoi le jeu vidéo serait traité d'une manière inférieure que la littérature par le cinéma. Puisque, en fait, c'est le cinéma qui régale, c'est le cinéma qui invite.
C'est ce que quelqu'un comme James Cameron a parfaitement compris, par exemple.
Ah oui, lui, de toute façon, lui, c'est le grand gourou. Hein. Voilà, lui, il a tout, absolument
tout. Pour
vous,
aujourd'hui, c'est le...
Oui, parce qu'il a tout compris de tout ça. Et il y va avec un maximum respect. Et il a, moi, ce que j'aime dans son cinéma, c'est à la fois le côté primitif et le côté hyper technologique. C'est-à-dire qu'il a un pied dans le passé. Je cite souvent la scène où l'arbre sacré s'abat dans le premier Avatar. Pour moi, c'est un moment de terreur sacrée. Quand je regarde ça, je me mets dans la peau du public des années 20 regardant la première version des 10 commandements par Cecil B. DeMille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de biblique. Dans cette affirmation qu'il a de montrer le sacré. Et il a néanmoins un pied dans le futur du cinéma. D'ailleurs, il est en train de créer le futur du cinéma. Et c'est cette façon qu'il a d'enjamber le présent fait de lui un vrai cinéaste. Tous les gens qui, pour moi, travaillent dans le présent, ils valent rien. Rien du tout. Et c'est pareil pour toute forme d'art.
Mais Christophe Gans, vous parlez de terreur sacrée. Pour vous, le cinéma est peut-être le dernier lieu où on est encore susceptible. Alors, il y a les concerts, il y a une expérience plurielle. Enfin, l'individu est soumis à toutes les formes possibles d'expérience. Mais le cinéma, c'est pour vous peut-être le dernier lieu de terreur sacrée où dans un état collectif, on peut recevoir quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas citer Savonarole ou autre chose, mais enfin dire des personnalités comme ça puissantes ou des scènes terribles, une espèce de d'émoi sacré.
Oui, donc qu'on pourrait aussi qualifier d'atavique. En fait, des choses qui nous touchent et en fait, elles touchent à quelque chose de profond qu'on n'a jamais vraiment cherché à analyser. Moi, c'est ce que je trouve dans le cinéma indien. Dans le cinéma indien, et je veux dire, sans doute parce que c'est une culture qui est extrêmement religieuse, elle est entièrement bâtie sur la croyance, et ben cette croyance se manifeste aussi dans la façon dont les films sont proposés aux spectateurs. Quand j'ai vu RRR de Rajamouli, ça a été une expérience de cinéma totale. Où j'ai regardé ça, en plus, dans une salle bourrée, etc., avec plusieurs générations, les gamins, les grands-parents, le machin. Et il y avait quelque chose qui se passait à l'écran que j'avais pas expérimenté depuis très, très, très longtemps. Parce qu'à cause, nous, on a fait une chose terrible en Occident, c'est qu'on a découpé notre public en petites tranches sociologiques. Alors que dans le cinéma indien, il s'est proposé au peuple. Et donc, brusquement, il y a quelque chose qui s'empare de la salle. Je veux dire, qui est une espèce de croyance commune. Et donc, il y a une énergie qui émane de ce cinéma, qui me ramène au fondement du cinéma, au fondement du cinéma muet, en fait.
De toute façon, on remarquera que les films qui marchent en France, qui sont des événements, qui soient bons ou mauvais, mais qui dépassent plusieurs millions de spectateurs, sont justement les films qu'on va voir en famille. Oui. C'est-à-dire des films qui réunissent toutes les générations et qu'on a plaisir à revoir, des films qu'on a envie de vivre avec, de vivre dedans, et qui dépassent ce marché de niche. Le marché de niche, vous pouvez pas faire des énormes scores dès l'instant que vous vous adressez à une catégorie de la population.
À moins d'accumuler différentes couches sociologiques. Vous pouvez additionner. Il y a encore des vrais succès qui additionnent. Le problème, c'est que ça nous couperait après de quelques formes d'expression. Moi, j'en ai fait un de ce grand film populaire, c'est évidemment Le Pacte des loups. Quand à l'origine, j'ai pensé le film.
5 millions d'entrées, rappelons le score.
Quand j'ai pensé le film, je me suis dit, je vais faire la version moderne de Angélique, Marquise des Anges. Ça, oui, c'était absolument clair dans ma tête. J'adore Angélique, Marquise des Anges. Et je me suis dit, voilà, il faut proposer ce truc-là. Si on repense à Angélique, Marquise des Anges, c'était évidemment un drame historique, mais c'était aussi du KPDP. Il y avait des scènes de catch, parce que il y avait Giuliano Gemma qui était un catcheur à l'époque. Il y avait des scènes de messe noire, donc un peu d'horreur. Il y avait des scènes érotiques et tout ça. Et donc, quand je fais la recette du Pacte des loups, parce que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi t'as mis des arts martiaux? Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as mis des trucs d'horreur? Mais parce que je refaisais la bonne vieille recette d'Angélique, Marquise des Anges, qui était une addition de tous ces trucs-là. Alors moi, c'est pas du catch, ouais, j'ai mis des arts martiaux, mais bon.
Alors, autre aspect de retour à Silent Hill, Christophe Gans, l'aspect justement de Messe Noire. On parlait de Messe Noire, puisque il y a là le thème de l'élu, du gourou élu, du mage noir, il y a le thème de l'enfant choisi, l'enfant du sacrifice, il y a des mises en scène de communautés sacrificielles. Ça aussi, c'est une dimension qui est dans le jeu, ou est-ce que vous l'avez amené?
Elle est dans l'univers de Silent Hill.
Disciple de Lovecraft et de Jean Ray.
Elle est dans l'univers de Silent Hill. Elle n'est pas spécifiquement, de prime abord dans le jeu, dans le Silent Hill 2, elle n'y est pas. Mais par contre, elle est racontée incidemment dans des choses qu'on peut lire, des journaux intimes qu'on peut ramasser, selon qu'on veuille les lire ou pas, d'ailleurs. Et il existe même une espèce de bible noire dans le jeu. Mais moi, personnellement, j'ai jamais trouvé, mais que certains joueurs ont pu dégoter. Voilà. Donc, ça fait partie de l'univers Silent Hill. Silent Hill est en fait une ville créée par les pères fondateurs. Mais ils se sont organisés en forme de secte, et il y a une espèce de combat comme ça qui existe dans Silent Hill. Et aussi, ils ont fait ce qu'ont fait aussi les Templiers, en Afrique du Nord. Ils ont assimilé les rites païens des précédents habitants, donc des Indiens. Et donc ils ont créé des formes de religion à la fois imprégnées de pompes catholiques et en même temps de rites païens, etc. Et donc c'est ça qui fait le fameux univers mystique de Silent Hill. Mais c'est raconté d'une manière plus précise, notamment dans le premier jeu.
Alors, il y a notamment un moment référentiel cinéphilique quand le peintre arrive un jour dans l'appartement où il vit avec sa fiancée et qu'il trouve là une réunion sectaire avec visiblement un rituel qui est en train d'avoir lieu ou qui s'ébauche. Tout le monde est un peu gêné. La fiancée, l'héroïne, la première, là, on est dans Rosemary's Baby. Oui. Et on est aussi dans le film de Val Newton qui se passe à New York, qui met en scène...
C'est Mark Robson.
Mark Robson, la septième victime.
Mais vous pouvez confondre parce que c'est produit par le Val Newton.
Voilà, c'est ça, Val Newton, le producteur. Qui met en scène un cénacle satanique, mais de petits gens, enfin de petits vieillards sympathiques.
De toute façon, c'est littéralement les deux films qui m'ont permis de concevoir cette scène. Donc, de toute façon, je vais le reconnaître, hein, bravo. Parce qu'autant Rosemary's Baby est bien bien connue, autant la septième victime est connue par les vrais turiféraires du genre, mais qui est un film génial d'ailleurs, absolument génial. Et d'ailleurs, la scène répète justement la scène de la sixième victime, puisque si vous vous souvenez bien, la sixième victime, les gens suggèrent par la force de suggestion à une jeune femme de se suicider. Et dans le mien, effectivement, l'assemblée autour de Marie, en fait, lui dit quoi faire dans la relation amoureuse qu'elle vient d'entreprendre avec quelqu'un qui n'appartient pas à la secte. Donc voilà, oui, absolument, ça c'est deux références que j'aime en plus et que je revendique. De toute façon, le film a été tourné en Europe de l'Est, il a été tourné en Serbie, et j'ai essayé énormément d'inviter en fait une inspiration Mille Europa en fait dans le film, notamment à travers la référence à un film magnifique qui s'appelle La Clepsydre de Wojciech Haas, qui est un film magnifique, mais également à travers Polanski et évidemment Le Locataire.
Oui, parce qu'on pense aussi à certains auteurs, alors Mittel Europa, enfin d'Europe de l'Est, Bruno Schulz, par exemple, que Haas, le cinéaste polonais, a adapté le sanatorium au croque-mort.
Ouais, tout à fait.
Ou alors Alfred Kubin. Il y a un côté, l'autre côté, ce grand chef-d'œuvre du fantastique Mittel Europa, l'autre côté qui montre une espèce de ville comme ça.
Exactement.
Et j'ai un peu pensé à l'autre côté en voyant la ville de.
Ah non, mais de toute façon, là aussi, c'est autant le premier film qui avait été tourné à Toronto revendique son côté nord-américain, autant celui-là, et ça m'a permis justement de ne pas me répéter, j'ai joué sur le fait qu'en fait je tournais ça dans les pays de l'Est, et que donc j'ai tous mes mood boards, par exemple, je les ai composés sur le film avec des photos de photographes surréalistes polonais ou tchèques en activité, hein. J'ai créé toute une espèce de monde, et quand je devais travailler avec les concepteurs de monstres pour le film, je leur montrais justement ces mood boards, disant voilà, il faut aller dans cette direction, hein. Je leur disais pas exactement quoi faire, mais je leur disais ça va être l'ambiance en fait, et une ambiance qui est forcément en plus à la fois morbide et très sexuelle. Parce que, à mon avis, l'une des choses qu'on a choisi de faire dans le film, c'est de sexualiser énormément les créatures, de leur donner vraiment un genre.
Stéphane ?
Et ça rajoute à la localisation très étrange de cette ville, une ville américaine créée par des Japonais, avec forcément des influences de leur propre horreur, parce qu'on... Junji Ito, par exemple, on a l'impression qu'il est aussi à Silent Hill, et là, qui est revisité aussi par l'Europe de l'Est. Je pensais aussi à ce peintre, Bezinski, je crois.
Bezinski,
oui. Mais voilà.
D'ailleurs, le type qui a conçu tout le visuel du film, qui est un jeune mec qui vit à Lille, qui s'appelle David Ratajczak, il s'était servi justement de Bedinsky pour créer certains visuels du jeu Le Medium, qui est le jeu dont j'ai pu m'inspirer, sans savoir que les développeurs du jeu allaient être embauchés par Konami pour faire le remake officiel de Silent Hill 2, pendant que je tournais le mien. Donc, c'est-à-dire, en fait, je m'aperçois, c'est des sortes de heureux hasards, mais qui montrent à quel point, justement, si on travaille dans le respect de l'œuvre originale, finalement, on se retrouve tous à pointer dans la même direction. Et c'est quelque chose qui est formidable parce que justement la communauté des joueurs se préoccupe assez peu de savoir où tel jeu a été créé, etc. Seul importe le résultat. Et c'est vrai qu'on manipule des jeux qui ont été développés en Pologne, qui ont été développés à Singapour ou en Russie, etc. Et il y a des choses très étranges qui apparaissent dans les jeux vidéo, alors que le cinéma reste très compartimenté, très étanche en fait dans ses inspirations.
Bah, moi j'avais une question un peu large, c'était sur le cinéma d'horreur. C'est qu'est-ce que c'est que de faire du cinéma d'horreur en 2025-2026 quand Silent Hill, le premier du nom, sort en 2006, on est en pleine vague torture porn, on est en pleine vague aussi Paranormal Activity, found footage, enfin
jumpscare,
il y a une dimension que l'horreur a eu cycliquement très foraine en fait. Et là, avec Retour à Silent Hill, on est vraiment sur une horreur qui est beaucoup plus exigeante, je dirais, mentale, beaucoup plus trouble aussi. Est-ce qu'il y a chez vous cette envie d'épouser aussi les fluctuations d'un genre ou simplement de respecter un matériau et de le faire vôtre?
Alors, il y a le respect du matériau dans la mesure où si on se penche sur le jeu, et récemment d'ailleurs, il y a eu un numéro spécial très très bon que tu as dû lire d'une revue qui s'appelle JV, où il revenait sur Silent Hill 2.
Et
il s'apercevait à quel point le jeu avait été précurseur d'énormément de choses, notamment des thèmes comme la masculinité toxique ou des choses comme ça, qui en fait aujourd'hui agitent nos sociétés. Alors que c'était pas du tout le cas quand le jeu est sorti en 2001. Donc il y avait absolument, on parlait pas de ça quoi. Mais c'est un jeu qui est très précurseur et qui contient une modernité qui est encore à travailler, qui est encore à aiguiser. Et puis bon, forcément, si le film existe aujourd'hui, c'est parce que aussi les financiers, je suis obligé d'aller sur un niveau pragmatique, reconnaissent dans le film quelque chose qui colle avec l'actualité du cinéma fantastique, qui reste la dernière forme de cinéma, le cinéma d'horreur, sur lequel on peut gagner beaucoup avec un investissement finalement assez limité. Donc c'est pour ça aussi que les films d'horreur existent. C'est parce que le rapport entre le coût et ce que ça peut rapporter est énorme. Et on est obligé, quelque part, quand on reçoit le feu vert pour un film comme ça, c'est parce que finalement les financiers se disent « Ah, c'est peut-être le bon moment pour sortir ça.
» Philippe Rouillet. On a beaucoup parlé, à juste titre, de la dimension visuelle du film qui est assez formidable, mais il y a aussi une dimension au design sonore. Et j'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec le musicien, qu'en fait le musicien du jeu que vous avez été chercher, et en disant « Alors... comment vous avez travaillé sur le film avec lui ? »
Il faut savoir, c'est que Akira Yamaoka, qui a donc composé la musique du jeu, qui est très célèbre au point qu'il y a des gigantesques concerts qui sont donnés, vous pouvez aller voir sur le net, où il joue la musique du film devant des salles combles.
Du jeu,
devant des salles combles absolument incroyables. Il est aussi le sound designer du jeu. Donc il y a dans sa musique une espèce de façon de mélanger finalement des sons concrets avec la musique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il possède totalement. Mais il était déjà avec moi sur le premier film. Moi, j'avais le deal breaker sur le premier film, c'était il faut qu'il y ait la musique de Akira Yamaoka, sinon je fais pas le film. C'était mon deal break. Je veux dire potentiel, mais très rapidement les gens se sont aperçus que on pouvait pas faire abstraction de la musique et du sound design si on voulait adapter Silent Hill.
Christophe Gans, à Mauvais Genre, pour nous présenter donc Silent Hill, troisième du nom, Retour à Silent Hill, visible dans les salles le 4 février. chronique maintenant dans Mauvais Genre avec vous, Esther Taillard. On parlait de la Pologne, de la Mittel Europa, on parlait de tout ce fantastique autrichien et autres. Eh bien, avec vous, Schnitzler aujourd'hui.
Oui, bonsoir Mauvais Genre. Il y a des textes qui rendent fou tant ils sont cruels et gracieux. Celui-ci a une manière de vous caresser bien particulière. C'est Schnitzler, sa trame novelleux, la nouvelle rêvée. Nous sommes à Vienne, il fait nuit noire, c'est le début des années 20 et le carnaval bat son plein. Fridoline et Albertine, nos deux personnages principaux, s'aiment. Ils sont beaux, prospères, parents d'une jolie petite fille. Oui, ils sont sur les rails. Fridoline est médecin, souvent appelée en pleine nuit au chevet des familles, de leurs mourants, leurs presque morts. Il enfile ce soir son manteau d'homme du monde et laisse Albertine au foyer. Son esprit est troublé par ce qu'elle vient de lui confier, encore toute chaude dans leurs draps. L'été passé, lors d'un voyage au Danemark, elle a ressenti un désir fou pour un jeune officier danois, de passage dans leur hôtel. Rien ne s'est passé, l'homme est parti trop vite, mais le simple fantasme de leurs deux corps emmêlés est le début d'un poison qui ne cessera de se répandre tout au long de la nuit. Voyez-vous, la jalousie chez Schnitzler est une cendre noire qui altère la perception, dissout les contours, masque les visages et défait le réel. Fridoline, vautrée dans sa méfiance mélancolique, ondule dans la nuit, entre rêve et réalité, torpeur et indulgence. Il ferme les yeux d'un mort, baise la nuque d'une jeune prostituée, s'assoit sur les genoux d'un joueur de pianola, achète un déguisement de moine et se retrouve empêtré dans une cérémonie sexuelle qui mêle sacrifice humain et rédemption bourgeoise. Si Kubrick a fait de cette nouvelle rêvée la peinture « Eyes Wide Shut », il y a chez Schnitzler un mystère plus profond. Ce je ne sais quoi d'étrange qui tient au nom des personnages, des rues, aux reflets de Vienne qui font pâlir New York, à ce carnaval permanent qui entoure les êtres et les lieux de couleurs funestes. Chez Schnitzler, la vie conjugale est un trou, une fosse noire, le lieu de toutes les dérives, les angoisses, les vices, une polka où le monde visible se fait manger tout cru par le diable, une fresque magnifique, une partout circassienne. Il paraît que Schnitzler était lui-même un grand jaloux, c'est évident, humable. Son écriture est possédée, inquiétante, empreinte de ce que la vie à deux peut dessiner de pire, le mépris, le dégoût, l'étouffement et l'horreur. Lisez Schnitzler, chers auditeurs, il n'y a plus que ça à faire, car aujourd'hui le rêve est notre seule issue. Oui, j'en suis convaincue. Il faut rêver et marcher dans la nuit, comme un fou, un désespéré. Il faut quitter vos femmes et aller au bordel. C'est l'unique moyen de passer le matin.
Merci Esther pour ces recommandations hautement morales. En tout cas, bravo pour Schnitzler que nous lirons et nous relirons, bien évidemment, et on reverra. Vous êtes un grand amateur de ce Kubrick-là, Christophe Gans, Eyes Wide Shut.
Je dois avouer que quand j'ai vu le film, j'ai eu quand même une sensation d'inachevé. Je pense qu'il n'aurait jamais laissé certaines choses à l'intérieur du film. Maintenant, le film m'a passionné, c'est normal. Mais on voit qu'il ne l'a pas fini.
Et Schnitzler, vous êtes aussi...
Oui, absolument. Ça fait partie des lectures que j'ai pu... Oui. Et c'est, de toute façon, la littérature... voir des films et lire les livres qui les ont inspirés, c'est aussi quelque chose que j'aime énormément faire. On a beaucoup de surprises.
Très bien, écoutez, merci d'être venu ce soir à Mauvais Genre et à très vite, ne serait-ce que pour parler de Jean Rey.
Ah oui.
Bien évidemment,
ah oui.
Le débat est ouvert,
ah oui.
Et l'espoir est grand. Philippe Rouillet, une petite recommandation.
Un mot, parce qu'une fois qu'on a relu Schnitzler, on va revoir le film de Kubrick, et justement, il y a une nouvelle édition chez Criterion qui est très très bonne, parce que Larry Smith, qui était le chef-op du film, a validé l'étalonnage. Et du coup, par rapport au disque et au Blu-ray qu'on avait jusqu'ici, on retrouve les couleurs de la salle qui sont beaucoup plus chaudes. Et donc, si vous voulez retrouver les sensations que vous avez eues en 99 en voyant le film en salle, il faut se diriger vers l'édition 4K Criterion.
Merci Philippe, merci à toutes et à tous d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain avec Hélène Wisdine et Bonnie pour leur album Détroit Romain chez Sarbacane. On parlera aussi de Gérard May 2026. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Eric Boisset, Claire Poissillon, Esther Théard, Claire Martin Dugard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Stéphane Duménildo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.